Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Promis, le rétro qui vient s'achèvera par la Marseillaise. Et auparavant par cet appel prononcé à Clermont-Ferrand en 1959. 800 millions d'habitants de la Terre vivent dans des pays développés, ont toutes les ressources de la technique, de la matière, de la civilisation. Ce sont eux qui habitent l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, et les États-Unis, de l'Atlantique au Pacifique. Ces pays-là ont le devoir humain de concourir et de participer à l'élévation de leurs frères qui ne sont pas au même niveau qu'eux. Fin de citation. Qui pourrait empêcher la France de s'atteler à cette tâche? Qui, vous savez, disait comme en confidence le général de Gaulle à son public. 1959, le printemps s'ébroue. Témoin ce rétro, diffusé pour la première fois sur France Culture le 16 avril 1989.
Rétro.
Rétro.
Printemps 1959, la France s'ébroue, par Antoine Perrault.
Depuis qu'ils envahirent le Tibet en octobre 1950, les Chinois y ont eu des difficultés très grandes, car la population tout entière, Dalai Lama en tête, résistait aux mesures que Pékin voulait introduire. Cette situation aurait pu durer encore longtemps, mais la semaine dernière, les autorités militaires de Lhasa, ayant de toute évidence opté pour la manière forte, donnèrent un ordre qui mire le feu aux poudres. Elles prièrent le Dalai Lama de se présenter seul et sans sa garde du corps. Et aussitôt, une foule énorme, comprenant beaucoup de femmes pleurant et gémissant, entoura le palais du Potala pour empêcher le Dalai Lama de le quitter. Une délégation tibétaine remettait une supplique au consulat général de l'Inde, seule mission diplomatique étrangère dans la capitale du Tibet. C'est aux abords de ce consulat général que les combats commencèrent le 20 mars. Le peu qui filtre à travers le rideau d'acier qui entoure maintenant le Tibet sont des rumeurs de plus en plus rares car les Chinois interdisent la circulation intérieure. On croit savoir avec certitude que le Dalai Lama est gardé à vue dans son palais au Potala, cette immense forteresse médiévale qui domine Lhasa. Un avion chinois serait prêt à l'emmener à tout moment. Il semble que le soulèvement spontané s'étende et ait déjà gagné plusieurs régions, notamment la ville de Gyantse dans le Tibet central, serait aux mains des révoltés. Peut-être ne connaîtra-t-on jamais les détails de la lutte héroïque et très inégale des Tibétains, probablement voués à l'écrasement pour sauver leur dieu roi. La répression chinoise semble massive et cruelle. On ne peut s'empêcher de penser à Budapest. Mais là, il y avait des témoins, les nouvelles allaient vite, les réfugiés étaient nombreux, la conscience mondiale fut vite soulevée. Tout ce que l'on sait donc, c'est qu'un petit peuple aimable, sympathique, doux et pacifique, touchant de candeur et de simplicité, est en train de se faire tuer. Son seul crime, impardonnable pour Pékin, est d'avoir voulu continuer à vivre paisiblement dans ses antiques traditions. Ici, Félix Nagar, correspondant de l'agence France-Presse à la Nouvelle-Delhi.
Et oui, les trois coups du printemps n'ont pas encore retenti que les Tibétains se révoltent. Déjà. En ce deuxième trimestre 1959, d'autres événements frappent les esprits à travers le monde. Un typhon dévaste Madagascar, André Siegfried meurt, suivi dans la tombe par Sidney Bechet et le secrétaire d'État américain John Foster Dulles. Ne quittons pas la nécrologie, avec l'inauguration par le général Franco de l'ossuaire de la vallée de Los Caídos, à l'occasion du 20e anniversaire de la fin de la guerre civile. Écoutons l'honorable réaction de l'avocat gaulliste Maître Henri Torres.
Pour célébrer le 20e anniversaire de la fin de la guerre civile, le général Franco, au début de ce mois, inaugura en grande solennité le mausolée de la vallée des morts. le gigantesque monument édifié à 30 kilomètres de Madrid a exigé 18 ans de travaux et coûté plus de 6 milliards de francs. La crypte peut recevoir plusieurs centaines de milliers de cercueils. La haute ambition du chef d'État espagnol est de faire de ce monument le symbole de la solidarité silencieuse, du courage et de la mort. Pour que cette fraternité du cimetière revête dans l'histoire son sens plein, je pense qu'un égal esprit de généreuse mansuétude devrait régler le sort des survivants de la guerre civile. Or, dans les prisons espagnoles, au pénitencier de Burgos, à Saragosse, à Carabochel, à Barcelone, à Subadil, à Bilbao, à Séville, demeurent encore des détenus politiques condamnés à de lourdes peines. Ce n'est pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un grand pays voisin que d'adresser par la voix des ondes un pressant appel pour que s'ouvrent enfin les lourdes portes. Cet appel, je le lance sans réticence au lendemain de l'émouvante manifestation de Madrid en faveur de la France. Puisse, dans le respect mutuel, la concorde civile devenir la paix des braves. Sous l'égide du général Franco, la réconciliation des morts est faite. Amis ardents de l'Espagne, je souhaite la réconciliation des vivants.
La France aussi connaît une terrible et aiguë crise de conscience. La guerre d'Algérie ramène les esprits qui s'éternisent depuis 1954. Maurice Clavel, 9 ans avant mai 68, livre les petits doutes et les énormes certitudes d'un intellectuel engagé, aux côtés du gaullisme triomphant.
Oui, il se fait en ce moment comme un travail sourd, profond, humain, vers cette paix qui est dans la nature des choses. Il est sans doute puéril de prétendre briser le FLN en plusieurs tronçons. Il est peut-être difficile de le réduire à sa tendance la plus pacifique. Du moins, est-ce la seule chose à faire pour un Français et pour un homme ? Par contre, dire, écrire, insinuer aujourd'hui en France que le FLN est un et indivisible et sa hiérarchie sacrée, c'est faire le travail le plus perfide contre la paix, un travail d'ultra, d'ultra-colonialiste et d'ultra-FLN à la fois. C'est renforcer chez l'adversaire une prétention qui aurait pu s'affaiblir, c'est encourager l'acharnement et la haine, c'est aussi introduire dans l'esprit de l'armée française non la démoralisation, non le défaitisme, mais la rage, l'esprit de guerre totale et exterminatrice, et peut-être, en cas d'un début de dialogue honorable, la sédition. Ces gens savent-ils ce qu'ils font ? Oui. Ils sont contre une paix parce qu'elle serait signée de Gaulle. Ils désirent encore un 13 mai, mais cette fois, sans arbitre, sans République, sans France peut-être, sans Algérie, sans plus d'Algérie en tout cas. Ils désirent le fascisme ou le stalinisme ici et là, partisans d'une paix par négociation dans un style si reluisant de la 4e République. Ils ne veulent pas qu'un autre la fasse aussi juste, mais plus honorable et plus française. Ils veulent le malheur pour le plaisir d'avoir eu raison.
Le préfet de police, un certain Maurice Papon, verse quant à lui dans les ratonnades. Celles de 1961, particulièrement meurtrières, feront écrire au temps moderne « Poubelle était un préfet, qu'appellera-t-on plus tard un Papon ?» En attendant, voici comment le haut fonctionnaire justifie ses pratiques musclées le 6 avril 1959.
Ces opérations ont permis effectivement d'appréhender 172 suspects, parmi lesquels 28 sont d'ores et déjà mis en état d'arrestation et parmi lesquels se trouvent bien entendu des cadres des organisations FLN de la capitale. L'exploitation des résultats obtenus cette nuit se poursuivent et demanderont d'ailleurs plusieurs jours car elles sont faites, je n'ai pas besoin de le dire, minutieusement et avec un esprit de justice total.
Merci, monsieur le préfet.
Répression, mais aussi évolution de la part des autorités françaises concernant la question algérienne. Le 29 avril 1959, Charles de Gaulle déclare, en privé, à Pierre Lafont, directeur de l'Écho d'Oran, « L'Algérie de papa est morte, et si on ne le comprend pas, on mourra avec elle. » Le Premier ministre, Michel Debré, sent le vent tourner. La rage au cœur, il sera obligé de jouer les girouettes. L'exercice ne fait que commencer, en ce 4 juin, lorsque M. Debré livre à l'Assemblée nationale cette déclaration un rien embarrassé.
Parce que ceux qui sont toujours pour tous les abandons, parce que ceux pour qui la France a en principe tort de vouloir une œuvre, savent que depuis le retour du général de Gaulle, il n'y a pas d'abandon possible, ils sont furieux et ils disent que la politique n'est pas claire. À l'opposé, parce que ceux qui sont pour que rien ne change, parce que ceux qui n'ont pas compris que pour demeurer, que pour maintenir la France, il fallait changer et donner à ceux qui n'y croyaient pas des raisons de croire en la France, parce que ceux-là savent aussi que depuis le retour du général de Gaulle, il n'y a plus d'immobilisme possible et que de lents mais irréversibles changements sont en route, ceux-là aussi sont furieux et disent que la politique n'est pas claire.
Veille de 13 mai à Alger, quelle est l'atmosphère? À vous, France 5.
Le général Massu, igam de la ville d'Alger, s'est adressé à midi sur les antennes de la radiodiffusion télévision française aux habitants d'Alger. Écoutez son appel.
Un hommage rendu publiquement, massivement à nos morts. Une manifestation éclatante d'une union plus solide que jamais entre l'armée et tous les habitants de cette province douloureuse et sensibilisée. Mais qui n'a jamais cessé d'afficher sa foi et sa détermination, voilà de quoi il s'agit, voilà ce à quoi je vous convie. Algéroises, Algérois, abandonnez la discussion byzantine. L'heure n'est ni à la dispersion, ni à la division. La victoire est au prix de notre union, de notre volonté farouche de former bloc. Je vous donne rendez-vous demain auprès de nos morts et auprès de notre armée, et je sais que vous viendrez en masse, car jamais en vain je n'ai fait appel à vous.
Cependant, sur les murs continue de se livrer la guerre des affichettes, les camions aux parleurs de l'armée continuent de convier les Algérois à participer aux cérémonies commémoratives du 13 mai. Ce soir, première manifestation officielle, levée des couleurs sur le forum à 21h, demain à 9h, grand défilé militaire, à 10h, cérémonie aux morts, à 11h, discours de M. Bouaraoua, président du conseil municipal, et de M. Delouvrier, délégué général du gouvernement. Puis largage de paras sur la baie, et à midi, dans tous les quartiers, banquet de fraternisation. Et à partir de 16h, concert sur les places publiques. Voici donc le programme des cérémonies officielles commémoratives du 13 mai 1958. Ici Alger, à vous Paris.
Un an après le retour aux affaires du général, la France s'ébroue. Nous jouerons crescendo le grand air du redressement. Pour commencer, le ministre des Finances Antoine Pinet. Ensuite, les derniers moments d'une fabuleuse conférence de presse d'André Malraux. Enfin, Charles de Gaulle soi-même, venu porter la bonne, la belle, la grande parole aux habitants de Clermont-Ferrand le 6 juin 1959.
Monsieur Antoine Pinet, revenant de New York, a atterri aujourd'hui à 12h20 à Orly. Et c'était Paul Soukas qui tendait au ministre des Finances le micro de Paris vous parle.
En quittant Paris il y a 8 jours, Je savais tout l'intérêt porté par les États-Unis à ce qui se passe en France depuis un an. Mais je ne m'imaginais pas l'intensité de cet intérêt. Nos amis américains sont surpris par l'ampleur, la vigueur et la rapidité de notre redressement. Ils veulent connaître ses principes, ses modalités et aussi les perspectives qu'il ouvre sur l'avenir. Mon voyage n'avait pas d'autre objet que d'informer les hommes politiques, les hommes d'affaires et l'opinion par l'intermédiaire des journalistes. Encore une fois, je n'avais aucun crédit à leur demander et aucune louange non plus.
Il y a cette énorme jeunesse française qui est menacée comme toutes les jeunesses d'Europe, car le même drame se passe à Moscou, à Mexico, à Londres, vous le savez comme moi. Cette jeunesse, c'est elle qui est l'objet de toute ma réflexion. Je voudrais, dans un temps qui mettra entre 5 et 7 ans, parvenir à mettre enfin sur pied les maisons de la culture en France, non pas pour une catégorie sociale, mais pour une catégorie d'âge. Qui viennent, ceux qui voudront y venir, et s'ils n'ont pas d'argent pour le faire, alors qu'on leur en donne, mais qu'on dépense cet argent, non pas pour les amuser, au sens de la biche auquel je reviens, mais pour les former, au sens le plus haut du mot, parce qu'il est faux qu'ils n'aient pas envie d'être formés, s'ils n'en avaient pas envie, ils n'iraient pas voir Sinna au Théâtre National Populaire. Je pense donc qu'il s'agit de préparer, en commençant par le théâtre, un plan qui touche le pays tout entier. Que ce plan aboutisse, je vous le répète, nous y mettrons 7 ans. Mais au fur et à mesure qu'il se développera, lorsque nous aurons les problèmes d'architecture, lorsque nous aurons les problèmes des arts et des lettres, lorsque nous aurons tous les problèmes qui vont être les nôtres, alors je vous convoquerai, vous, pour vous en rendre compte et pour vous demander votre aide, car je pense que ce plan, nous le ferons ensemble. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, messieurs, d'autres attractions suivront. Je vous remercie.
Humaine, enfin, l'œuvre de la France sur la terre. Il y a, je l'ai dit déjà, je le répète à Clermont-Ferrand, 2 milliards d'hommes sur la terre qui se trouvent, comme on dit, sous-développés, qui n'ont pas le minimum à partir duquel on a sa dignité d'homme. Il y a 800 millions d'habitants de la terre qui, au contraire, sont des peuples développés qui ont toutes les ressources de la technique, des matières, de la civilisation. Ces 800 millions d'hommes, ce sont ceux qui habitent l'Europe, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, et ceux qui habitent l'Amérique du Nord, depuis le Pacifique jusqu'à l'Atlantique. Ces 800 millions d'hommes-là ont le même devoir humain, quel que soit leur régime, quelle que soit leur doctrine, quelles que soient leurs ambitions. Ce devoir humain, c'est de concourir à l'élévation de leurs frères qui ne sont pas au même niveau qu'eux. L'œuvre de la France, la vocation de la France, c'est de prendre au milieu des trois, avec ses trois autres grands partenaires, l'initiative de ce grand travail. C'est ce qu'elle se propose de faire, si l'occasion lui en est donnée, au cas où les ambitions ou les prétentions de qui, vous savez, voudraient bien baisser leur ton et où il serait possible de causer une fois enfin entre hommes de bonne volonté.
Ouais.
Voilà, mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, quelle est l'inspiration de la politique de la France. Vous en savez aussi long que moi, et il m'a suffi de vous voir et de vous entendre pour constater que vous êtes aussi convaincus que moi que c'est la bonne route qu'il nous faut prendre, qu'il nous faut suivre. Cette magnifique assemblée aura, je vous assure, son effet, sa répercussion loin de nous. Et pour qu'on l'entende encore mieux, nous allons la terminer en chantant tous ensemble d'un seul cœur la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous
Rétro.
Rétro.
C'était Rétro. Printemps 1959, La France s'ébroue, par Antoine Perrault, groupe de réalisation, Philippe Sibyl, Didier Sudre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 avril 1989.